Bienvenue à tous sur France Culture, on est lundi et il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et bien évidemment, ce journal sera très largement consacré encore à l'assassinat vendredi dernier du professeur Samuel Paty. À ce stade, le récit des heures et même des jours qui ont précédé la tuerie demeure pas tout à fait stabilisé. Nous ferons le point sur les derniers éléments de l'enquête.
Par ailleurs, depuis ce matin, des opérations de police sont menées contre des dizaines d'individus de la mouvance islamiste.
Oui, des opérations décidées au lendemain du Conseil de défense et destinées à cibler notamment la haine en ligne. Toujours à la suite de cet assassinat, nous essaierons de comprendre comment et pourquoi la tradition L'Union nationale en France a tendance aujourd'hui à s'effriter. Et puis nous irons également à la cour d'assises spéciale où se poursuit le procès des attentats de janvier 2015.
Et puis l'invité de la rédaction dans une quinzaine de minutes.
Philippe Mérieux, chercheur, essayiste, militant de gauche, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Et puis à l'étranger, nous irons en Bolivie où selon plusieurs sondages de sortie des urnes, le candidat de la gauche et dauphin de l'ex-président Evo Morales aurait remporté la présidentielle dès le premier tour. Enfin à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et une préhistoire du patriarcat, des rapports entre hommes et femmes, avec notre invité, le paléo-anthropologue Pascal Pic. Il sera avec nous donc dans une vingtaine de minutes.
Des fleurs et des bougies disposées place de la République jusqu'aux salves d'applaudissements comme autant de spasmes parcourant la foule. Hier partout, les cortèges de plusieurs dizaines de milliers de personnes en France défilant en hommage à Samuel Paty, cet enseignant assassiné vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine, auront aussi et inévitablement souffert de cette ère de triste déjà-vu, des rassemblements contre la barbarie comme autant de douloureux échos à la mobilisation historique qui avait suivi, on s'en souvient, les attentats de janvier 2015. Comme si l'effet du poison islamiste ne pourrait jamais s'estomper. Alors aujourd'hui, après l'émotion, l'heure est évidemment aux questions et plus encore aux réponses pour tenter de comprendre ce qui a bien pu conduire un jeune homme de 18 ans, connu de la police pour des antécédents de droit commun, mais non identifié pour sa radicalisation, à mener en France cette cinquième attaque liée à l'islamisme depuis le début de l'année. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, faut-il redétailler la chronologie des faits, puisque certains éléments ont grandement évolué depuis ce week-end, et en particulier s'agissant de cette collégienne qui s'était dite choquée suite au comportement de son professeur, conduisant son père à publier une vidéo qui a envenimé la situation, et dont on apprend, Anne, qu'elle n'avait pas assisté en réalité au cours de Samuel Paty, pour cause, puisqu'il n'était pas son professeur.
Oui, la chronologie de ce drame, elle est désormais connue, elle est retracée dans une note du service central du renseignement territorial des Yvelines, note parcourue par plusieurs confrères, et qui raconte d'abord le coup de fil d'une mère en pleurs à la proviseure du collège de Conflans-Sainte-Honorine, c'était le 6 octobre, au lendemain du cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression, mère qui explique que sa fille a été mise à l'écart de la classe et qu'elle vit cette situation comme une discrimination. Dans les faits, c'est écrit également, le professeur avait proposé aux élèves qui pourraient se sentir offensé par les deux caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo, de fermer les yeux ou de sortir de la classe. Puis le 7 octobre, la principale du collège reçoit un mail anonyme qui dénonce un climat d'islamophobie, alors que sur Facebook, un appel à la mobilisation contre l'enseignant est déjà lancé. Un autre parent d'élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine demande l'exclusion du professeur et mentionne même le numéro de téléphone de ce professeur. Il portera plainte contre l'enseignant le 8 octobre. Puis refusera de venir à la convocation de la police une semaine plus tard, mais il ira se plaindre auprès de la principale du collège, accompagné par un homme très impliqué dans la mouvance islamiste, Abdelhakim Sefrioui. Avec cet homme et sa propre fille, il a ensuite réalisé une virulente vidéo intitulée « L'islam et le prophète » insulté dans un collège public. Les derniers éléments de l'enquête révèlent effectivement, Thomas, que sa fille, la fille de ce parent d'élève, n'avait pourtant pas assisté au cours de Samuel Paty. En revanche, avant de passer à l'acte, le 16 octobre, le terroriste tchétchène a eu connaissance de ses messages internet et les a relayés sur les réseaux sociaux. Les liens entre ces protagonistes ne sont pas formellement établis, mais les deux hommes sont toujours en garde à vue, avec 9 autres personnes.
Alors les enquêteurs cherchent aujourd'hui en somme à savoir si l'assassin a été piloté ou s'il a lui-même décidé de s'en prendre au professeur. Et c'est ainsi qu'au cœur des investigations, on trouve à présent, non seulement, vous l'avez mentionné, un agitateur islamiste d'origine algérienne connu en banlieue parisienne, mais aussi, Anne, une association, le collectif contre l'islamophobie en France.
Oui, des opérations de police sont menées depuis ce matin et vont se poursuivre ces prochains jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas hésité à dire qu'une fatwa avait été lancée contre le professeur par le père de la collégienne de Conflans-Sainte-Honorine et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui. Et puis 51 structures associatives sont désormais ciblées par l'État, dont le collectif contre l'islamophobie en France. En cause, la participation présumée de cette association à la campagne de dénigrement lancée contre Samuel Paty. Des structures qui, selon le ministère de l'Intérieur, vont recevoir des visites des services de l'État et qui pourront être dissoutes en Conseil des ministres. Plus de 80 enquêtes ont par ailleurs été ouvertes pour haine en ligne. On apprend également ce midi que le compte Twitter de l'assaillant, celui qui a été utilisé pour revendiquer l'attaque, avait été signalé en juillet dernier à la plateforme de signalement Pharos.
Merci Anne Fauquemberg. Alors dès hier soir, un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron a décidé de renforcer la sécurité des établissements scolaires le 2 novembre prochain, date de la rentrée des classes. Et puis ce matin, l'exécutif a également annoncé le lancement de plusieurs opérations de police actuellement en cours visant la mouvance islamiste et tout particulièrement la haine en ligne. Car au cœur de l'enquête, vous l'évoquiez Anne, on se trouve donc les réseaux sociaux qui manifestement auront joué un rôle déterminant dans cet attentat. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Rappelons que le gouvernement d'Édouard Philippe avait bien tenté, c'était l'été dernier, de lutter contre cette haine en ligne par le biais d'une loi portée par la députée LREM Laetitia Avia. Loi que le Conseil constitutionnel avait fini par tailler en pièces, Laura, en jugeant qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression.
Oui, cela avait été un échec retentissant pour la majorité. La loi Avia, on le rappelle, c'était ce texte né de l'engagement pris par Emmanuel Macron après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Attentat diffusé en direct et partagé plus d'un million de fois sur Facebook. La loi Avia proposait alors d'obliger les plateformes et les moteurs de recherche à retirer sous 24 heures les contenus manifestement haineux, sous peine d'amende jusqu'à à plus d'un million d'euros. Et pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, ce délai était ramené à une heure. Or, le Conseil constitutionnel en juin a retoqué ces deux mesures, vidant ainsi la loi de sa substance. Il a considéré que cette loi revenait à donner un pouvoir de censure aux géants du numérique. Concrètement, le risque aurait été que les plateformes retirent directement les contenus qui leur sont signalés, sans faire dans le détail qu'ils soient problématiques ou pas, de peur de passer à côté d'un contenu illicite. Conclusion du Conseil, cette proposition de loi portait atteinte à la liberté d'expression. Sauf que forcément, après l'attentat de vendredi, le sujet revient au cœur des préoccupations. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirmait hier que l'exécutif travaillait à un dispositif juridique de lutte contre la haine sur les réseaux sociaux. Actuellement, cette lutte repose presque uniquement sur la plateforme Pharos, qui recueille les signalements des internautes. Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, se rend aujourd'hui dans les locaux de Pharos, dont le renforcement est envisagé. Marlène Schiappa, qui recevra demain les représentants français de Google, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et de son côté, Laetitia Avia plaide pour que ses propositions soient reprises dans la loi sur les séparatismes. La porte-parole de la majorité promet aussi des annonces pour décembre à l'échelle européenne.
Merci Laura Dulieu. Alors je l'évoquais en début de ce journal, de très nombreux rassemblements ont eu lieu hier un peu partout en France en hommage à Samuel Paty. Sauf qu'au-delà de ces démonstrations de solidarité commence à poindre le risque de l'impossibilité de trouver une véritable union nationale. C'est ainsi par exemple que parmi la classe politique mobilisée face à l'atrocité, eh bien certains, en l'occurrence à droite et à l'extrême droite, ont refusé de descendre dans la rue pour dire leur émotion face à la litanie des morts, une manière pour eux de dénoncer l'impuissance de l'État et d'exhorter le gouvernement à passer aux actes. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et cette faille donc dans la traditionnelle union nationale, eh bien elle trouve notamment à s'exprimer aujourd'hui, Pierre, dans des discours de plus en plus stricts.
Et c'est une constatation, le discours de la classe politique se durcit pour défendre la République, la liberté d'expression, la laïcité. Il y a les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce matin, il qualifie les menaces contre le professeur Samuel Paty de fatwa. Fatwa, le mot est-il trop fort ? Non, il faut nommer les choses. Justifie sur France Info Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement.
Quand c'est dans une volonté d'islam politique de tuer un enseignant parce qu'il enseigne la liberté d'expression, parce qu'il défend les valeurs de la République, parce que dans son cours il crée le débat autour de caricatures, alors le mot utilisé par le ministre de l'Intérieur, fatwa, est juste.
La peur doit changer de camp, dit Emmanuel Macron. L'opposition attend des actes. La droite monte au front pour critiquer l'inaction du gouvernement. Nous sommes en train de perdre la guerre contre l'islamisme, dénonce le sénateur LR Bruno Retailleau, qui accuse l'exécutif de laxisme. Les Républicains font une série de propositions, comme la fermeture des mosquées salafistes et l'expulsion des étrangers radicalisés. Dans une déclaration solennelle ce matin, Marine Le Pen appelle à réarmer l'État. Elle exige une légalisation, une législation de guerre contre l'islamisme. La présidente du Rassemblement national réclame la création d'une commission d'enquête. À gauche, les divisions se font jour. On est bien loin de l'unité nationale. Bernard Cazeneuve dénonce les discours ambigus de groupes gauchistes. Manuel Valls accuse une partie de la gauche de lâcheté. Manuel Valls, qui, rappelons-le, en janvier 2015, dénonçait, lui, l'apartheid territorial, social et ethnique. Ces mots, dit-il, qui rongent notre pays. Et les deux anciens premiers ministres socialistes ciblent là la France insoumise, qui participait l'an dernier à une manifestation contre l'islamophobie. Manifestation organisée notamment à l'appel du collectif contre l'islamophobie en France, dont le ministre de l'Intérieur demande ce matin la dissolution. On le voit, aujourd'hui, l'exécutif est au pied du mur. La réponse sera politique. Elle est attendue le 9 décembre prochain avec les présentations du projet de loi contre le séparatisme. Mais quelle que soit la nature du texte, eh bien le gouvernement comme le président n'échappent pas aux critiques.
Merci Pierre Neveu.
L'assassinat, vendredi dernier de Samuel Paty, comme d'ailleurs l'attaque au hachoir perpétrée fin septembre devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, intervient dans un contexte très particulier, Thomas Cluzel, celui du procès des attentats de janvier 2015.
Oui, ce matin, un hommage a d'ailleurs été rendu à la Cour d'assises spéciale de Paris. Et puis en amont de cette nouvelle journée d'audience, Richard Malka, l'avocat du journal satirique, a lui tenu à s'exprimer. Il fustige un excès de compromission et de renoncement, une forme de déni de la réalité et réclame des actes.
Après qu'ils aient déjà tué des juifs, qu'ils aient tué des journalistes, qu'ils aient tué des dessinateurs, qu'ils aient tué des passants dans la rue à Nice, qu'ils aient tué des jeunes au Bataclan, maintenant ils tuent des enseignants. Ils s'en sont pris à tous les piliers que la Troisième République nous a légués. La liberté d'expression, la loi de 1881, les lois sur l'école de Jules Ferry, 1881, 1882, la loi sur la laïcité, 1985, ils s'en prennent à tous les fondements de la République et à tout le monde. Ils ont tué des juifs, ils ont tué des musulmans, ils ont tué des chrétiens, ils tuent tout le monde. Ils, ce sont les fanatiques islamistes, ce sont les fascistes islamistes. Et ils sont les ennemis d'abord des musulmans de ce pays, des millions de musulmans de ce pays qui cherchent à vivre paisiblement, en respectant les lois de la République, mais ils ne l'ont pas fait seuls. Ils sont quelques milliers, ils sont quelques dizaines de milliers, ils n'ont pu prospérer que grâce à cette arme de destruction massive de notre République, que sont les accusations d'islamophobie constante, que sont la culpabilisation, la victimisation constante, c'est cette rhétorique de l'humiliation en inventant des faits, comme l'a fait ce père de famille qui appelait à la haine dans une vidéo et dont la fille n'était même pas dans le cours auquel elle était censée avoir assisté. Ils l'ont fait ses complices qui permettent depuis 20 ans à l'islamisme de pénétrer tous les milieux. Et il y a 50 rapports sur la question. Et ça fait 18 ans que le rapport Aubin a été réalisé avec des inspecteurs de l'éducation nationale. Il y avait déjà tout dans ce rapport. Il y avait les juifs qui ne pouvaient même plus être acceptés dans l'école républicaine, dans l'école publique, parce qu'on ne pouvait pas assurer leur sécurité et qui étaient recueillis par l'enseignement catholique. Il y avait ces professeurs d'histoire qui devaient faire des cours d'histoire avec le Coran posé sur le bureau, parce que sinon ils ne pouvaient pas donner des cours d'histoire. Il y avait ces proviseurs qui essayaient de faire régner la laïcité, qui étaient désavoués par le rectorat et mis sous tutelle par des délégués de parents d'élèves islamistes de la FCPE. Tout ça a été dit, tout ça on le connaît, il y a 50 rapports et on n'a rien fait. Aujourd'hui, on a besoin que chaque fonctionnaire de ce pays soit investi d'une mission de respect de la laïcité.
Voilà Richard Malka, l'un des avocats de Charlie Hebdo, au micro de Florence Thuan. Florence, que l'on retrouve justement en direct du tribunal de Paris, bonjour.
Bonjour.
On imagine évidemment que l'audience de ce matin, Florence, se sera ouverte dans une émotion toute particulière.
Oui, vous venez d'entendre Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui s'est aussi exprimé à l'intérieur de la salle. Mais le président de la cour d'assises, Régis de Jorna, a également pris la parole avec une certaine solennité à l'ouverture des débats ce matin. Il ne l'avait pas fait lors de l'attaque menée par un jeune Pakistanais il y a 3 semaines devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Silence total dans la salle où ont pris place, comme les jours précédents, plusieurs membres de la rédaction de la hebdomadaire satirique. La cour tient à exprimer son émotion, déclare Régis de Jorna, suite à l'assassinat de cet enseignant, mort du seul fait d'avoir transmis à ses élèves ce que représentait la liberté de penser et la liberté d'expression. La cour, ajoute-t-il, ne peut que s'associer
aux hommages qui lui sont rendus. À son tour, Jean Chevet, l'un des avocats de la défense, se lève quand un professeur est lâchement et odieusement décapité parce qu'il enseignait la liberté d'expression. Nous sommes tous concernés, dit-il, au-delà de nos divergences. Soyons êtres solidaires et unis le temps d'une minute pour Samuel Paty. Le message aura trouvé son écho sur les rangs des avocats des partis civils. Plus que jamais, nous devons nous inscrire pour la défense de la liberté d'expression et de la liberté de penser, affirme maître Samia Maktouf. Les débats ont ensuite repris avec l'interrogatoire de Metin Karasoular, soupçonné d'avoir recherché et potentiellement fourni des armes à Hamedi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère, et qui nie tout en bloc sur la tête de sa femme et de ses enfants. « Moi, les terroristes, j'aime pas ces gens-là », lance-t-il. « Tuer des gens innocents, je ne mange pas de ce pain-là ».
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Arthur Dumont pour les moyens techniques. Alors on se souvient qu'il y a 5 ans, des millions de personnes étaient descendues dans la rue partout dans le pays pour scander « Je suis Charlie ». Et ainsi défendre un grand principe républicain, celui de la laïcité. Or, vendredi dernier, c'est un autre poumon démocratique qui a été touché en plein cœur, l'école. Et à ce titre, Hakim Kasmi a recueilli pour nous, il y a quelques minutes à peine, le témoignage de Philippe Mérieux, chercheur, essayiste, militant de gauche et spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie.
Philippe Mérieux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste en éducation, professeur honoraire. Malheureusement, cet attentat était-il prévisible? On sait que depuis Charlie, depuis les attentats du Bataclan et de Saint-Denis, il y avait des menaces très importantes contre les écoles. Est-ce que ces dernières années, on a peut-être eu tendance à oublier ces menaces?
Non, je pense qu'on n'a pas oublié ces menaces, mais évidemment, cet attentat était à la fois prévisible et imprévisible. Imprévisible parce que c'est effroyable et que nous ne pouvons pas anticiper ou imaginer un tel acte. Prévisible parce que c'est vrai qu'il y a des tensions dans un certain nombre d'établissements scolaires, des tensions entre des familles, des enseignants et l'institution scolaire, et que ces tensions sont répercutées assez massivement sur les réseaux sociaux qui servent de caisse de résonance et qui peuvent entraîner certains à des gestes aussi effroyables et barbares que celui auquel nous avons assisté.
Alors ces tensions, on le sait, elles existent malheureusement, encore plus en zone d'éducation prioritaire, où on sait certains sujets sont compliqués à aborder, je pense à la religion, à la Shoah, à la décolonisation. Comment peut-on mieux accompagner les enseignants, mais aussi les élèves et les parents, car les parents ont aussi un rôle à jouer?
Alors bien sûr, la question d'abord c'est celle des familles. N'oublions pas que dans le cas qui nous occupe, ce sont les familles qui ont alerté l'opinion publique et qui ont provoqué cette vague de fond qui a abouti peut-être, en tout cas nous le supposons, à cet attentat terrible. Il faut, je crois, dire clairement aux familles dans l'enseignement public qu'elles n'ont pas pouvoir sur les contenus et les méthodes d'enseignement. Alors il faut le dire tout en les accueillant, parce que le risque existe réellement que ces familles, à ce moment-là, fuient vers l'enseignement privé hors contrat, et le président de la République lui-même l'a évoqué dans son discours il y a quelques jours. Et il faut les entendre, les accueillir, mais il faut être ferme. Et il faut être ferme sur le projet de l'école de la République et sur le fait que l'école de la République n'est pas au service des familles et a fortiori de l'idéologie des familles. Alors ensuite, bien sûr, il faut aider les enseignants. C'est une chose que l'éducation nationale tente de faire à travers des documents, à travers des séquences pédagogiques. Mais je crois que la formation initiale et la formation continue dans ce domaine restent extrêmement insuffisantes. L'éducation morale et civique, qui est dans les programmes, doit être accompagnée. Tous les professeurs doivent être accompagnés. Et surtout, je dirais, tous les professeurs doivent se sentir concernés, pas seulement les professeurs d'histoire, parce que dès l'école maternelle, dès l'école primaire, le travail sur le langage dans toutes les disciplines, en mathématiques, en français, mais aussi le travail en lycée professionnel, en mécanique ou autre chose, toutes les disciplines sont des occasions d'apprendre à parler juste, d'apprendre à balayer les préjugés, d'apprendre à être précis, rigoureux, respectueux aussi dans la prise de parole. Tout cela construit une ambiance une citoyenneté. C'est long, c'est compliqué, c'est difficile, mais je crois que c'est un chantier qui est devant nous et qui est éminemment nécessaire.
Oui, d'ailleurs, il est important de rappeler qu'il n'y a pas qu'en histoire géo qu'on peut avoir de la contestation de la part de certains élèves, ça existe aussi en sciences et vie de la Terre.
Oui, bien sûr, ça existe en SVT, ça existe en français. Hein. Il y a un certain nombre de collègues de français qui, quand ils proposent un poème de Baudelaire, se voient opposer des résistances et voient des parents venir à la charge. Ça existe évidemment en philosophie, ça existe, je crois, dès que les parents veulent légiférer sur l'enseignement tel qu'il est donné. Or, l'école publique française, c'est une école où les parents ne légifèrent pas sur l'enseignement. L'enseignement, c'est le bien commun, c'est les finalités de la République, et je crois qu'il faut aider les enseignants à être à la fois accueillants et fermes à l'égard des parents, et en même temps à trouver avec les élèves les voies qui peuvent permettre de les convaincre sans les humilier. Parce que beaucoup d'enfants font une identification, c'est vrai, beaucoup d'adolescents font une identification avec certaines théories islamistes radicales, certaines théories du complot, et ils peuvent vivre certains enseignements comme les détruisant en quelque sorte, comme les niant. Il faut leur donner la possibilité d'entendre que des connaissances peuvent venir entrer en dialogue, en dialectique avec leurs convictions, sans que cela les humilie. Et c'est une tâche pédagogique extrêmement complexe et à laquelle, je crois, nous devons nous attacher pour aider tous les enseignants dans ce travail.
Mais au-delà de la formation, de l'accompagnement des enseignants, il y a aussi le phénomène d'autocensure. Beaucoup d'entre eux, notamment en zone d'éducation prioritaire, parfois ont peur et préfèrent volontairement éviter certains aspects de l'enseignement civique parce que justement ils ont peur d'avoir des débats non contrôlés dans la classe.
Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il faut absolument éviter cette autocensure. Il faut que les enseignants acceptent d'introduire des documents qui peuvent, à certains moments, dégager un débat. Mais il faut qu'on les aide aussi à structurer un débat. Un débat, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Un débat se prépare. Un débat se prépare à l'avance, en donnant le sujet quelques jours à l'avance, en permettant aux élèves d'y réfléchir et d'en discuter, en organisant un tour de parole où chacun respecte l'autre. La technique du débat est quelque chose de complexe, on le sait bien, nos représentants du peuple le savent bien, et on peut pas imaginer qu'un débat serein se passe dans une classe sans que cela ait été minutieusement préparé sur le plan pédagogique. Lancer comme ça une question et puis laisser parler des élèves sans régulation, c'est évidemment prendre tous les risques, c'est comme faire une opération à cœur ouvert dans un grenier poussiéreux.
Merci beaucoup Philippe Mérieux, professeur en sciences de l'éducation, d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, on retrouve Thomas Cluzel pour la suite du journal.
Et merci à vous, Hakim Kasmi. Et je rappelle pour conclure cette longue page consacrée à l'assassinat vendredi dernier de Samuel Paty qu'un hommage national sera rendu à l'enseignant mercredi prochain.
La suite de votre journal, Thomas Cluzel, avec dans le reste de l'actualité en France, hasard du calendrier, la droite qui aura l'occasion de mettre aujourd'hui au débat l'une de ses mesures phares contre l'islamisme radical.
Oui, le Sénat doit examiner une proposition de loi LR pour inscrire dans la Constitution la prééminence des règles de la République. Et puis, le 16e congrès des régions qui se tient à partir d'aujourd'hui à Saint-Ouen rendra hommage au professeur décapité en observant une minute de silence avant de publier une déclaration commune et en attendant le discours du Premier ministre Jean Castex cet après-midi, ou quand la barbarie de vendredi dernier vient reléguer à un second plan tous les autres thèmes donc du Congrès, qu'il s'agisse du report éventuel des élections régionales prévues fin mars ou de la gestion de l'épidémie de Covid-19. S'agissant justement de la pandémie, l'Europe, confrontée à une puissante deuxième vague, a dépassé hier les 250 000 morts, de quoi amener certains pays dont la Belgique et la Suisse à annoncer à leur tour un nouveau durcissement des restrictions. Déjouant tous les pronostics, le candidat nationaliste soutenu par la Turquie a été élu hier président de l'autoproclamée République turque de Chypre Nord. Un succès évidemment pour Ankara dans un contexte de vives tensions autour de ses projets en Méditerranée orientale.
Et on file maintenant en Bolivie, où le candidat de gauche serait donné vainqueur à la présidentielle.
Oui, même si les résultats se font toujours attendre, un premier sondage à la sortie des urnes laisse entendre que le dauphin de l'ex-président Evo Morales remporterait la présidentielle dès le premier tour, Nadine Epstein, avec 52,4% des voix.
Les Boliviens devront attendre encore quelques jours pour connaître les résultats officiels de la présidentielle d'hier. Le décompte des procès-verbaux prend du temps, a expliqué le président du Tribunal suprême électoral, Salvatore Romero, qui a salué la bonne tenue du scrutin et une journée réussie pour la démocratie bolivienne. S'appuyant sur le sondage sorti des urnes, qui lui donne 50% de suffrage contre 30% pour son rival le centriste Carlos Mesa, le candidat de la gauche, Luis Arce, s'est réjoui de sa victoire. Il a annoncé qu'il formerait un gouvernement d'unité nationale. Le nouveau chef de file du MAS, le mouvement vers le socialisme, est le dauphin de l'ex-chef d'État Evo Morales, aujourd'hui en exil en Argentine. Ancien ministre de l'économie, Luis Arce était au pouvoir aux côtés de son mentor de 2006 à 2019, date du départ du président Evo Morales, accusé de fraude lors des élections de l'an dernier. Un mouvement historique de rejet avait alors bloqué le pays et son économie pendant près d'un mois. Le nouveau gouvernement devra faire face à une situation économique au plus bas. La Bolivie, 11 millions d'habitants, est durement frappée par la pandémie du coronavirus, plus de 8400 morts, la croissance ralentie depuis 2014 et le déficit public se creuse en raison notamment de la chute des cours des matières premières, principalement le gaz, le lithium, le fer et le cuivre, dont la Bolivie a d'importantes réserves.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi calme et globalement ensoleillé à l'exception du golfe du Lion où les entrées maritimes de nuages bas s'épaissiront au fil des heures. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.